VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia, Anastasie Toudiech, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du mercredi 28 décembre 2016 au sommaire ce soir.
Le Nigeria annonce avoir éliminé 50 000 emplois fictifs dans la fonction publique.
Le Premier ministre marocain en visite à Nouakchott pour apaiser les tensions après les déclarations d'un responsable politique sur la Mauritanie terre marocaine.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a prononcé un important discours sur le conflit israélo-palestinien.
Le président élu Donald Trump accuse le président Barack Obama d'entraver la transition.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Niger, les combattants de Boko Haram sont totalement en déperdition, selon le ministre de l'Intérieur. Bazoum Mohamed note toutefois la présence d'éléments organisés qui s'entraînent dans le lit du lac Tchad, une zone très enclavée, à cheval entre le Niger, le Tchad et le Nigeria.
Au Nigeria, justement, une vingtaine de lycéennes de retour à Chibok, dans le nord-est du pays, après 2 ans de captivité aux mains de Boko Haram, ont été empêchées par les autorités de retrouver leur famille à Noël, selon plusieurs témoignages recueillis aujourd'hui par l'AFP. Des raisons de sécurité ont été avancées, aussi bien par les parents que par des résidents.
Le président du Burkina Faso, Roch Kabore, a nommé aujourd'hui le colonel-major Sadou Oumarou, nouveau chef d'état-major de l'armée burkinabé. Ancien chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Oumarou est originaire du nord du pays, une partie attaquée à plusieurs reprises depuis le début de l'année par des groupes djihadistes souvent venus de pays voisins. 12 militaires burkinabés ont été tués dans une récente attaque à Nassoumbou, dans le nord, à 30 km de la frontière malienne.
Les corps de 11 migrants morts par noyade après le naufrage de l'embarcation dans laquelle ils tentaient de rejoindre l'Europe ont été retrouvés sur des plages près de Tripoli. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le Croissant Rouge libyen. La plupart des départs de Libye, des dizaines de milliers par an, se font depuis l'ouest du pays à destination de l'Italie, dont les côtes ne sont qu'à quelques centaines de kilomètres.
Le Maroc a dépêché en Mauritanie une délégation gouvernementale qui a été reçue ce mercredi par le président mauritanien pour, selon le communiqué du royaume chérifien, dissiper tout malentendu après les propos polémiques d'un responsable marocain. Les précisions de John Lyndon.
Le 24 décembre, Hamid Chabad, secrétaire général de l'Istiklal, le parti historique de la lutte pour l'indépendance marocaine, avait déclaré que la Mauritanie était une terre marocaine, des propos vivement dénoncés à Nouakchott par l'ensemble des formations politiques. Dans le but de dissiper tout malentendu qui pourrait avoir un impact négatif sur les excellentes relations entre les deux pays, souligne un communiqué du Palais Royal, le Maroc a donc dépêché en Mauritanie une délégation conduite par son chef de gouvernement, Abdelilah Ben Kirane. Au président mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz, qui l'a reçu, M. Ben Kirane a affirmé que les déclarations de M. Chabad n'engagent que lui-même. Elles ne reflètent ni la position du roi Mohamed, ni celle du gouvernement, ni celle du peuple marocain. Mohamed VI s'est entretenu hier au téléphone avec Mohamed Oul Abdelaziz et a réaffirmé son attachement à la relation de bon voisinage et de solidarité entre les deux pays, et le souverain marocain a rappelé à cette occasion que le Maroc reconnaissait la Mauritanie.
Au Soudan, les députés ont voté aujourd'hui le rétablissement du poste de Premier ministre qui avait été supprimé suite à l'arrivée au pouvoir du président Omar el-Béchir lors d'un coup d'État soutenu par les islamistes en 1989. On fait le point avec Dili Diko.
Dans le cadre du dialogue national entre le gouvernement soudanais et des groupes de l'opposition, le président soudanais Omar el-Béchir avait suggéré en octobre de nommer un premier ministre. Aujourd'hui, 387 députés présents sur un total de 425 ont voté à l'unanimité un amendement donnant au premier ministre la responsabilité du pouvoir exécutif dans le pays. Le président garde en revanche le pouvoir de former le gouvernement et de limoger les ministres. Le dialogue national a été organisé par Khartoum pour résoudre les problèmes économiques, les insurrections et donner jour à une nouvelle constitution. Il a cependant été boycotté par la plupart des groupes armés et des partis d'opposition en signe de ras-le-bol face à M. Béchir au pouvoir depuis plus d'un quart de siècle. Le président soudanais est d'ailleurs recherché depuis 2009 par la Cour pénale internationale pour répondre de crimes de guerre et de génocide au Darfour.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent, ici aux États-Unis, le secrétaire d'État John Kerry a prononcé un discours dans lequel il a mis en exergue sa vision pour un règlement pacifique de la crise israélo-palestinienne quelques jours seulement avant son départ en tant que chef de la diplomatie américaine. Il accuse Israël d'engager un projet exhaustif pour s'approprier des terres palestiniennes et réitérer le soutien américain à la solution des deux États. Le point avec Timothée Donangmaï.
Le chef de la diplomatie américaine est revenu sur la décision des États-Unis de ne pas opposer leur veto à la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU dénonçant la poursuite des implantations juives en Cisjordanie.
The vote in the United Nations was about preserving the two-state solution.
Le vote à l'ONU, a-t-il dit, visait à préserver la solution des deux États. C'est ce que nous avons défendu. Israël comme un État juif démocratique, vivant en paix et en sécurité aux côtés de ses voisins, c'est ce que nous tentons de préserver dans notre intérêt et le leur. John Kerry a aussi déploré le désaccord exprimé publiquement par les autorités israéliennes avec les États-Unis sur ce dossier.
Regrettably, some seem to believe that the U.S. friendship means the U.S. must accept.
Malheureusement, certains semblent penser que l'amitié des États-Unis signifie que les États-Unis doivent accepter n'importe quelle politique, indépendamment de nos propres intérêts, de nos positions, de nos propres paroles, nos propres principes, même après avoir exhorté encore et encore à un changement de politique. Les amis doivent se dire mutuellement la dure vérité et l'amitié requiert un respect mutuel, a expliqué le secrétaire d'État américain. Pour John Kerry, les États-Unis n'avaient pas d'autre choix que de s'abstenir d'opposer leur veto à la résolution onusienne.
We could not, in good conscience, protect the most extreme elements of the settler movement.
Nous ne pouvions pas, en toute conscience, protéger les membres les plus extrêmes du mouvement des colonies qui tentent de détruire la solution des deux États. Nous ne pouvions pas, en toute conscience, ignorer les actions palestiniennes qui attisent la haine et la violence. Il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'aider l'un ou l'autre camp à créer un État unitaire. La solution des deux États est le seul moyen d'assurer une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. C'est le seul moyen d'assurer un avenir de liberté et de dignité pour les Palestiniens et un important moyen de faire avancer les intérêts américains dans la région, a souligné le secrétaire d'État John Kerry.
Merci Timothée. Et en réaction, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dénoncé le discours biaisé contre Israël prononcé par le secrétaire d'État américain John Kerry en l'accusant d'être obsédé par la question des colonies israéliennes.
Autre réaction, celle du président élu Donald Trump, qui a accusé aujourd'hui le président sortant Barack Obama de tenir des propos incendiaires et de créer des obstacles qui entravent la transition à la tête de l'exécutif. « Je fais de mon mieux pour ignorer les nombreux obstacles et déclarations incendiaires du président O. Je pensais que la transition se ferait en douceur. » Mais non, a tweeté Donald Trump, sans préciser la teneur de ces obstacles ni les propos de M. Obama auxquels il se réfère. Le président élu a également rappelé son soutien à l'État d'Israël.
La Turquie et la Russie ont convenu de mettre en œuvre à partir de minuit heure locale un plan de cessez-le-feu pour la Syrie. Les détails avec Gabi Dorsil.
L'agence officielle Anadolu indique que l'objectif visé est la cessation complète des hostilités dans la deuxième ville de Syrie, Alep, mais à l'exclusion des groupes terroristes. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a fait savoir, selon Reuters, qu'Ankara demeure ferme dans sa position sur le départ de Bachar al-Assad. Deux textes sont déjà prêts pour une solution en Syrie. L'un vise une résolution politique du conflit et l'autre concerne un cessez-le-feu. Ils peuvent être mis en application à n'importe quel moment, a ajouté le chef de la diplomatie turque. La semaine dernière, la Russie, l'Iran et la Turquie ont adopté une déclaration conjointe définissant les grandes lignes d'un éventuel accord sur la Syrie. Le président Vladimir Poutine a annoncé la tenue prochaine de pourparlers à Astana, la capitale du Kazakhstan, entre les trois pays. Entre-temps, une source proche des rebelles a dit à l'AFP que l'opposition syrienne n'a reçu aucun détail sur un nouvel accord de cessez-le-feu, lequel, selon lui, est inexistant pour le moment.
Les États-Unis rejettent catégoriquement les accusations du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui avait affirmé hier que Washington soutenait le groupe État islamique. Dans un communiqué publié sur le site de l'ambassade des États-Unis à Ankara, Washington affirme que le gouvernement américain ne soutient pas Daesh, dénonçant du coup une désinformation considérable. Le président turc, lui, dit disposer de preuves en images.
De nouveaux détails sur l'auteur présumé de l'attentat de Berlin qui avait fait finalement 12 morts. Il a été abattu par la police italienne la semaine dernière et selon les enquêteurs, Anis Amri, qui avait tué donc 12 personnes avec son camion dans un marché de Noël, serait passé par les Pays-Bas et la France après avoir commis son forfait. Les enquêteurs cherchent à déterminer comment ce Tunisien de 24 ans a réussi à traverser tous ces pays sans être identifié. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Tatiana Mosso.
Algérie, le ministre de l'Industrie et des Mines a procédé à de nouvelles nominations à la tête de 4 groupes industriels publics. Sont concernés les groupes Algeria Chemical Specialties, la Société nationale des véhicules industriels, le groupe textile GTEX et le groupe ELEC El Jazair. Ces nominations doivent accélérer les réformes industrielles. Télécom, NTN, l'opérateur sud-africain de téléphonie mobile condamné à une amende de 330 milliards de naira pour ne pas avoir désactivé des cartes SIM anonymes, serait déjà acquitté de 80 milliards de naira. Après négociation avec l'État nigérian, le géant des télécommunications implanté dans une vingtaine de pays africains a finalement été condamné à payer une amende très largement revue à la baisse, équivalente à 1,7 milliard de dollars, payable en 6 fois sur 3 ans. Construction. Après la fusion, Lafarge Holcim passe à l'offensive en Afrique. Le numéro 1 mondial du ciment mise sur l'élargissement de sa gamme et une approche pays par pays. Désormais leader mondial du ciment avec un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros en 2015, le groupe a confié la région Afrique-Moyen-Orient à un seul patron, Saad Sebar.
Place au sport à présent avec vous, Eric Manirakiza. Bonsoir.
Bonsoir Anna.
Alors, on commence avec la CAN 2017. Après le Gabon, la Côte d'Ivoire a annoncé sa liste de 24 joueurs.
Dans cette liste dévoilée aujourd'hui, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire tenant du titre, Michel, a retenu les principales têtes d'affiche des éléphants, à l'instar de Bali. Mais manque à l'appel au capitaine et à Tocan Gervinho, blessé à un genou et déclaré forfait. L'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, fera ses grands débuts en sélection ivoirienne à 24 ans. Du 2 au 12 janvier, les éléphants effectueront un stage de préparation à Abu Dhabi avec 2 matchs amicaux le 8 janvier contre la Suède et le 11 janvier face à l'Ouganda.
Les caps sur le nord, en Égypte, Al Ahly et Zamalek joueront à huis clos demain.
Tout à fait, Anastasie. Les deux clubs rivaux de la capitale disputeront le derby du Caire sans spectateurs. Les fans le regarderont à la télévision. Les autorités l'ont décidé pour éviter de violence dans le foot égyptien. Les portes des stades du pays ont fermé une première fois après la mort de 72 supporters d'Al Ahly en février 2012 dans des affrontements avec des supporters d'une autre équipe égyptienne. Et en février 2015, les portes ont rouvert mais 19 supporters de Zamalek ont été tués dans des violences. Et les autorités ont de nouveau fermé les stades. Conséquence, la motivation et l'enthousiasme manquent aux joueurs devant les tribunes vides.
Et on les comprend enfin, Eric. On fait le point sur la NBA, le championnat nord-américain de basketball. Après le festin de Noël, Westbrook a toujours faim.
Ça ne signifie pas qu'il manque d'argent pour manger. Les soirées se succèdent sans que Russell Westbrook ne lève le pied. Le meneur star de l'Oklahoma City a signé hier son 15e triple-double de la saison lors de la victoire tranquille des siens sur le parquet de Miami Heat, 106 à 94. Westbrook est dans le rythme pour atteindre, voire battre le record NBA de triple-double. 3 catégories statistiques à 10 unités ou plus dans une saison qui est détenue par Oscar Robertson depuis 1962, 41 points.
Et d'autres résultats des matchs de ce mardi ?
Lakers a perdu face à Utah 100-102. Dallas a gagné face à Houston 107-123. A perdu plus tôt. Boston a battu Memphis 113-103. Et Miami a perdu contre Oklahoma City 94-106. Et c'est tout, Anna.
Merci, Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Toudiéché et Abdourahmane Dia avec vous. Place au dossier du jour. Première escale, le Nigeria.
Oui, les autorités ont annoncé cette semaine avoir détecté et supprimé quelques 50 000 postes de fonctionnaires fictifs. Une opération rendue publique par l'informatisation et une plus grande centralisation des finances fédérales. Selon le porte-parole de la présidence, Garba Shehu, 13 milliards de naira ont ainsi été économisés sur les salaires payés de février à décembre 2016, tandis que l'audit des retraites a permis de récupérer 1,1 milliard de naira par mois sur la même période. Pour un éclairage, Timothée Delangmaï a joint le professeur Akanbi Iloupedjou de l'Université de Lagos.
Il s'agit de recrutements, on peut dire fantômes, mais vraiment il y a des gens qui existent mais qui ne travaillent pas sur le terrain, qui ont été embauchés par les politiciens pour récompenser les travaux qui ont été effectués pendant la campagne électorale. Alors ces gens ne travaillent pas, mais ils ont leur nom sur la liste de différents postes dans différents secteurs de l'administration.
Maintenant, il y a un compte unique pour toute l'administration, c'est cela?
Oui, tout le monde verse dans le même compte, et on puisse dans le même compte. Alors, avant qu'on ne puisse payer les fonctionnaires, il faudrait qu'on suive les règles selon le ministère de Finances. Et chaque département a son budget. Et si au-delà de votre budget, vous voulez opérer, c'est automatiquement bloqué parce que c'est un compte numérisé. Il faut encore une approbation avant qu'on ne puisse aller d'avance. Ce qui a fait que jusqu'à décembre, il y a certains qui ont déjà épuisé leur compte avant même décembre. Donc certains fonctionnaires ne sont pas payés depuis novembre. Alors ils ont besoin de faire une demande administrative vers le ministre ou madame la ministre des Finances avant que ça ne soit réglé.
Les autorités disent que certains responsables de cette pratique ont été mis à la disposition de la justice. Qui sont-ils?
Et ce sont des hauts cadres de l'administration. Ils sont les appels permanent secretary. Ouais, ils sont plus puissants que les ministres parce que ce sont eux qui sont vraiment les administrateurs fonctionnels de l'État dans différents ministères. Ce sont eux qui mettent en train les nouveaux ministres désignés pour qu'ils sachent et suivre l'administration de chaque ministère où ils sont délégués. Alors ces gens-là ont aussi leurs collaborateurs. Vous savez, le Nigeria fonctionne en type étatique. Nous avons l'administration nationale qui a aussi ses filières dans chaque État. Alors ça, quand on veut, nous avons 36 États, plus la capitale fédérale. Alors il y a la duplication de chaque ministère comme les filières dans chaque État. Alors si on veut le compter comme ça, et si on veut commencer à chercher les fonctionnaires fantômes, ça serait partout dans le pays. Alors voilà pourquoi, non seulement qu'ils sont nombreux, mais ça date depuis, on peut même dire depuis l'indépendance, ça existait depuis.
L'analyse du professeur Akanbi Iloupedjou de l'Université de Lagos au Nigeria.
Le président guinéen Alpha Condé n'est pas partant pour une intervention militaire de la CEDEAO en Gambie en cas de résistance de Yahya Jammeh à lâcher le pouvoir après sa défaite à la présidentielle du 1er décembre dernier. Pour Alpha Condé, il faut privilégier le dialogue alors que la CEDEAO n'exclut pas l'option militaire en cas d'échec des négociations avec Yahya Jammeh. Bakary Domingo Mané, directeur de publication du journal Le Sud Quotidien.
Cette position de la Guinée est tout à fait compréhensible. Dans la mesure où, si je parle du cas du Sénégal, aujourd'hui les gens ne sont pas favorables pour l'intervention militaire. Ils pensent qu'on doit utiliser toutes les voies de recours, surtout les voies concernant le dialogue, de manière à ce que le pouvoir se donne vraiment de façon pacifique. Aucune guerre n'est souhaitable, n'est-ce pas, en Gambie. Parce que s'il y a guerre en Gambie, c'est le Sénégal qui ressentira les coups. Donc c'est pourquoi même hier, puisqu'on s'en obtient qui est le président du Parti socialiste, a fait une sortie pour dire que vraiment on doit privilégier le dialogue. Maintenant, la question est, comment peut-on privilégier le dialogue face à quelqu'un qui s'entête dans sa position en disant qu'il ne va pas remettre le pouvoir? Voilà la grande équation. Mais Alpha Condé dit que c'est son ami, que Yahya dit que c'est son ami, donc il va utiliser cette voie d'amitié pour pouvoir arriver, disons, à faire réfléchir l'homme fort de la Gambie.
Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui restent sceptiques et qui disent qu'il n'y a que la voie militaire qui peut faire plier Yahya Djamé?
Oui, on peut le comprendre, parce que, bon, ils ont pratiqué Yahya Djamé, on connaît ses méthodes, mais quand même, tant qu'il y a la vie, il y a toujours espoir. Je pense qu'aujourd'hui, il est acculé, il a deux murs, peut-être que cela va le pousser vraiment à changer carrément de fusil d'épaule pour ne pas vraiment plonger la Gambie dans la guerre.
Est-ce que l'opinion sénégalaise soutient le gouvernement pour une intervention militaire?
Oui, globalement, l'opinion sénégalaise est pour la voie pacifique. Hein. Parce que quoi qu'on dit aujourd'hui, même vous avez entendu à Villon-Cher, il y a déjà des populations qui fuient la Gambie pour venir se réfugier dans les villages frontaliers, n'est-ce pas, avec la Gambie. Donc, le Sénégal n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait guerre en Gambie, parce que c'est lui qui va subir le contre-coup. Donc, l'opinion, de façon générale, est pour la voie pacifique, parce que, quoi qu'on dise, on ne peut pas laisser Yahya Djamé au pouvoir, alors qu'il y a un président stable pour la démocratie.
Donc, dans tous les cas, Yahya Djamé devra partir d'une façon ou d'une autre?
Oui, d'une façon ou d'une autre. Mais la façon la plus souhaitée au Sénégal, c'est la voie pacifique. Parce que s'il y a guerre, c'est le Sénégal de ça qui a reçu un tirant de coups. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que toutes les familles gambiennes ont des familles au Sénégal. Donc ce sont ces gens-là qui seront obligés de d'accueillir vraiment les gens qui fuient la guerre.
Bakary Domingo Mané, directeur de publication du journal Sud Quotidien, joint à Dakar par Bakassi Koura.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le roi du Maroc, Mohamed VI, a dépêché à Nouakchott son premier ministre, Abdelilah Ben Kirane, pour tenter d'apaiser les tensions nées des propos d'un grand parti politique marocain qualifiant la Mauritanie de « terre marocaine ». Une déclaration qui intervient au moment où le royaume chérifien multiplie les efforts pour sa réintégration au sein de l'Union africaine. Comment cette dernière tension est-elle perçue à Nouakchott? Réponse du journaliste et analyste politique mauritanien Fall Omer, et c'est Abdourahmane Dia qui lui posait les questions.
Très mal parce qu'elle réveille de vieux démons, disons-le tout de suite. De vieux démons, au moment de l'indépendance en 1960, la Mauritanie était revendiquée par le Maroc. Et pendant quelques années, il y a eu même une action contre l'indépendance de la Mauritanie. Mais la sagesse de feu Hassan II a permis de revenir sur tout ça et de créer des relations très fortes entre les deux pays.
Les rapports entre les deux pays n'ont pas toujours été les meilleurs, il faut le dire. Et pourquoi cette fois-ci le roi Mohamed VI s'empresse pour éteindre le feu, si on peut le dire ainsi?
En réalité, je ne suis pas d'accord pour dire que les relations n'ont pas été toujours très bonnes. Elles ont été toujours très très bonnes parce que c'est obligatoire. Et on est passé par des périodes où la relation diplomatique a été mauvaise, effectivement, dans les années 80, au début des années 80. Et pendant quelques années, même le Maroc a été même inscrit sur les passeports mauritaniens comme destination interdite, au même titre qu'Israël et l'Afrique du Sud. Mais c'est une erreur que les Mauritaniens aussi ont toujours essayé d'oublier et de faire semblant qu'elle n'a jamais existé. Ceci dit, la relation, grosso modo, globalement, et surtout entre les peuples, et surtout, ça n'a jamais souffert des relations diplomatiques. Cette fois-ci, il fallait éteindre le feu rapidement parce que le feu était alimenté par des forces qui veulent bien créer un incident entre le Maroc et la Mauritanie parce que la situation est très fragile et très risquée. Et aussi, le Maroc a une stratégie aujourd'hui qui lui donne la volonté de s'ouvrir sur l'Afrique et la volonté de s'ouvrir sur l'Afrique ne peut se faire qu'à travers la Mauritanie et que si la Mauritanie est consentante.
Il y a aussi l'Union africaine. Quelle est la position de la Mauritanie en ce qui concerne la réintégration du Maroc au sein de l'organisation?
Le président mauritanien qui dirige actuellement le sommet arabe n'a jamais exprimé publiquement autre position que celle de la neutralité vis-à-vis du conflit du Sahara, ce qui l'oblige à rester hors les tiraillements autour de cette question. Ceci dit, si je ne m'abuse, il a déjà déclaré que le Maroc serait le bienvenu, que c'est normal que le Maroc intègre l'Union africaine.
L'analyste politique mauritanien Fall Omer.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Dernière escale de cette édition, le Togo, où les éperviers prendront part à la CAN 2017 au Gabon. Une commission vient d'être créée pour pouvoir financer la participation de cette équipe. Mais cette décision gouvernementale réveille un vieux démon, les comptes des fonds mobilisés pour la CAN 2013. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Le 16 décembre dernier, le gouvernement togolais a pris en conseil des ministres un décret portant création d'une commission chargée de la mobilisation des fonds pour soutenir la participation de l'équipe nationale togolaise à la CAN 2017. Un décret qui a reçu un accueil glacial de la part de la population, car en 2013, des fonds ont été mobilisés pour la même cause et jusqu'à ce jour, les Togolais sont dans l'expectative des comptes. Du coup, une campagne virtuelle est lancée sous le hashtag « Faisons les comptes ». Aftal Cissé, blogueur, est l'un des initiateurs de cette campagne.
Nous avons initié le hashtag « Faisons les comptes » pour mobiliser les internautes togolais, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou les divers réseaux sociaux. Ce que nous demandons simplement, c'est que des comptes soient faits par rapport à la mobilisation des fonds effectués en 2013.
Faire les comptes de la CAN 2013 tient à cœur à ces Togolais, comme il exprime.
C'est une question de justice sociale, parce que en 2013, lors de cette CAN, ce prélèvement avait été fait de manière arbitraire, et je pense qu'il est important que chaque Togolais sache ce qui a été fait de son argent.
Ce mardi 27 décembre, la Ligue des consommateurs du Togo, LCT, appel à un sit-in devant la primature à Lomé. Emmanuel Sogadi, président de la LCT.
Nous avons décidé de manifester le 27 ce mardi au niveau de la primature dans l'objectif d'amener l'autorité à procéder à la publication des rapports sur les comptes de la CAN de 2013 parce que nous ne savons pas comment les fonds ont été gérés. Nous allons voir par quels moyens ils vont le faire. Si ce n'est pas décret, nous allons attaquer ce décret-là et porter plainte devant les tribunaux.
En 2013, l'Association togolaise des consommateurs ATC avait porté plainte contre les sociétés de téléphonie mobile. En première instance, l'ATC a été condamnée à payer 500 millions de francs CFA à ces sociétés. L'affaire est toujours pendante devant les tribunaux. Aguta Aladjou, porte-parole de l'ATC.
L'affaire est toujours en appel. Bon, nous, on n'est pas du tout inquiétés. Les sociétés de téléphonie mobile avaient été mises à contribution, qui ont prélevé directement de l'argent sur les comptes des consommateurs sans leur aval.
Faut-il encore contribuer pour la participation des éperviers à la CAN 2017 sans les comptes des fonds mobilisés en 2013? Les avis des Togolais divergent.
Même si le gouvernement ne faisait pas les comptes et qu'on demande encore une contribution pour la CAN 2017, bien sûr, je serai prêt à faire une contribution. L'équipe nationale est la fierté de chaque Togolais.
Si des comptes ne sont pas faits et qu'on nous annonce qu'une surtaxe sera effectuée sur les coûts de communication, nous ne communiquerons plus tout simplement le temps de la CAN. Et si le prix de la bière a augmenté, bah un peu d'abstinence n'a jamais tué quelqu'un. On peut s'abstenir le temps de la CAN. Et je pense qu'on peut quand même s'organiser autrement pour contourner l'arnaque qui sera mise en place.
Pour le moment, le gouvernement togolais n'a pas encore rendu public les canaux qui seront utilisés pour la mobilisation des fonds en vue de financer la participation des éperviers à la CAN Gabon 2017. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console, Wagner Roberts, présentation Abdourahmane Dia et Anastasie Tudiech.
Ainsi va le monde. Aujourd'hui, on maintient la conversation sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.